C'est l'heure de vous informer.
Radio Capi. Oh,
Capi. Le journal Pascal Masserica.
À la une de l'actualité, la RDC a un pied d'égalité avec l'Indonésie et le Brésil où les habitants revendiquent les droits d'accéder au prix de la tonne carbone selon la ministre de l'Environnement. Madame Eve Bazaïba Massoudi l'a dit ce mardi à Kinshasa à la conférence co-animée avec le représentant des deux pays précités en marge de la pré-COP27. Arrestation à Bagata de 22 présumés auteurs du meurtre des chefs coutumiers des villages de Bukusu et de Fadiaka, puis transférés à Bandunduville où ils seront traduits en justice. Ils sont impliqués dans le conflit entre les communautés Teke et Yaka, province du Kwilu. Notre invité, c'est l'infirmière titulaire du centre de santé de Mangina, territoire de Beni au Nord Kivu. Sœur Florine Kavira affirme que la situation s'est dégradée dans cette structure médicale suite à la grève de médecins. Madame, messieurs, bonsoir. La RDC se trouve actuellement au même diapason avec l'Indonésie et le Brésil de voir ses habitants revendiquer les droits d'accéder au prix de la tonne carbone. Déclaration faite par la ministre de l'Environnement lors d'une conférence conjointement animée à Kinshasa par les représentants des deux pays précédemment cités en marge de la pré-COP 27 dans la capitale congolaise. Les propos de Madame Eve Bazaïba Massoudi ont été recueillis par Paul Matendo.
Par moment, on travaillait de manière épaisse. Vous savez que depuis très longtemps, la RDC était en reste. Le Brésil et l'Indonésie avaient une certaine avance sur la compréhension, sur leur implication des questions des enjeux du climat. Mais depuis lors, grâce à la collaboration entre les trois pays, la RDC se retrouve aussi au même diapason dans la stratégie de revendiquer nos droits, les droits de nos populations. Pour avoir une position commune sur la tonne, le prix de la tonne de carbone, parce qu'à partir de là, ça peut nous donner, nous, les pays nantis, en termes d'environnement, avec cet argent, à aider les autres pays qui n'ont pas les couverts forestiers comme nous, mais qui sont tout aussi victimes que nous des enjeux du climat, comme les pays insulaires, par exemple, là où il y a un grand danger sur les questions des fonds d'adaptation et les fonds concernant les pertes de dommages.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, le député provincial Prince Kiangi plaide pour l'intégration de Walikale au sein de l'unité de la gestion du crédit carbone. L'élu de Walikale a adressé une correspondance dans ce sens hier lundi, au moment où s'ouvraient à Kinshasa les travaux de la pré-COP 27. Il note que plus de 50% de la superficie de cette entité territoriale sont constituées de forêts reparties sur les parcs nationaux de Maïko et de Kahuzi-Biega, ainsi qu'une dizaine de concessions forestières des communautés locales. Il le dit à Bernard Denyangui.
Le territoire de Walikale, c'est le premier territoire de la province qui regorge une forêt immense et compté parmi les 5 premiers territoires qui font la fierté de la République en termes de contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Au regard de ces réalités, nous estimons que la province du Nord Kivu ne devait pas se doter d'une unité provinciale de gestion du crédit carbone en excluant le territoire de Walikale, parce que ça peut arriver à décourager cette population qui a consacré l'essentiel de sa forêt à la conservation de la nature et la protection de l'environnement. Voilà pourquoi nous avons jugé utile de saisir monsieur le gouverneur militaire afin de demander à celui-ci de bien vouloir revisiter cet arrêté qui crée cette unité provinciale de gestion du projet carbone afin d'intégrer le territoire. Ce serait une bonne manière d'encourager cette population à pouvoir davantage s'investir dans la conservation.
Rappelons que c'est depuis le 25 janvier dernier que le gouverneur avait signé l'arrêté portant nomination des animateurs de l'unité provinciale de gestion du crédit carbone au Nord Kivu. On en vient maintenant au conflit du Kwilu entre les communautés Teke et Yaka, 22 présumés auteurs du meurtre des chefs coutumiers des villages de Bukusu et de Fadiaka ont été arrêtés dans les territoires de Bagata, secteur de Wamba vers Fatundu, et ils ont immédiatement été transférés hier à Bandunduville où ils seront traduits en justice. Le commandant du bataillon infanterie des FARDC affirme que ces assaillants ont été arrêtés pendant les opérations militaires en cours. Le colonel Alain Mbayo est au micro d'Irène Boma.
Il s'agit des assaillants qui ont participé à tuer les chefs Fadiaka et Bukusu. On a dépêché les militaires pour aller les appréhender. Ce sont des assaillants qui étaient de l'autre côté de Maïndombe, qui voulaient juste transporter les conflits juste chez nous ici dans la province de Kwilu. Et heureusement que les autorités ont mis la main dans la pâte et on a dépêché les militaires et les policiers, qu'on a mis la main sur certains parmi eux qui ont participé à ces désordres, qu'on a mis la main et maintenant ils sont parmi nous pour le transfert. Ils sont au nombre de 22, les hommes, les femmes et leurs enfants. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Vous avez vu à un certain moment que nous avons déployé nos efforts et avec l'appui des autorités, nous sommes en train de traquer et vous nous voyez chaque fois partout en train de traquer parce qu'ils sont maintenant en débandade. Donc la puissance des nuisances, ça diminue, ça continue à diminuer jusqu'à ce que vous voyez vous-même qu'on est en train de les attraper. Nous n'avons pas l'habilité de pouvoir les arrêter et de les juger. Nous les traquons juste pour les déférer devant la justice.
Et puis, le porte-parole des opérations Skola 1 dans les Grands Nord Kivu appelle la population de Butembo et des environs à la prudence et à la vigilance, tous azimuts, face à la menace terroriste. Cet appel intervient au lendemain de l'explosion d'une bombe artisanale dans une salle de cinéma. Le capitaine Anthony Mualushai appelle la population à collaborer étroitement avec les services de sécurité, et cela pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Il le dit à Sadiki Aboubakar.
Quand l'ennemi est coincé dans une zone, l'ennemi préfère aller dans une autre. Aujourd'hui, l'ennemi a immigré vers non seulement dans la ville de Butembo, mais aussi dans la chefferie de Bachou. Cela veut dire que la ville a été menacée depuis très longtemps et nous avons alerté la population d'être trop vigilante. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons été mal compris par certains de nos compatriotes qui ont organisé des manifestations contre la MONUSCO, contre les services de sécurité. Et entre-temps, on faisait les lits à l'ennemi. Notre ennemi était en train de nous infiltrer pendant que nous, on s'est disputés entre Congolais. La population congolaise dans son ensemble doit comprendre que la menace, c'est régionale. Parce que même le pays frontalier, même les pays amis sont concernés. Nous sommes appelés à être trop vigilants, que ce soit à Beni, à Butembo, à Kasindi, dans les Lubero. Au-delà des opérations militaires amorcées par l'armée loyaliste, la population doit nous accompagner.
Au sud Kivu, l'actualité, c'est aussi la reprise progressive des activités depuis quelques heures dans la ville, le territoire d'Uvira, où la nouvelle société civile congolaise a décrété une journée ville morte ce mardi. Cette structure citoyenne appelait les habitants à rester chez eux pour amener le gouvernement congolais à appuyer les FRDC à faire libérer la cité de Bunagana. Elle fustige également l'appui apporté au M23 par le Rwanda. À Uvira, la correspondance de Fiston Ngoma Mayabala.
Au centre commercial de Mulongwe, on peut observer encore des boutiques, magasins, dépôts fermés, sauf les petits kiosques et le marché de Mulongwe qui bondouent Kavivira et Kalmabenge qui ont repris timidement vers 16h, ainsi que la circulation des motos et des tricycles sur l'artère principale de la ville. À Sang et dans la plaine de la Ruzizi, des sources locales font état de la reprise de la circulation sur la route nationale numéro 5 ainsi que des activités commerciales dans la cité. Toutes les activités sont restées paralysées dans la ville d'Uvira, ainsi que les activités socio-économiques fermées. Certains jeunes ont érigé des barricades sur la RN5, notamment au niveau du pont Kiliba, depuis 5 heures du matin, pour décourager et empêcher toute circulation dans la ville. Cette situation a contraint la plupart des habitants de rester chez eux, tout en observant l'évolution de la situation. On pouvait observer les forces de l'ordre de la défense se déployer sur tous les endroits stratégiques de la ville pour atténuer ou empêcher toute manifestation violente de se produire. Cette journée ville morte se produit malgré les réunions de sensibilisation organisées par le maire de la ville d'Uvira et d'autres autorités pour annuler l'appel et laisser les habitants vaquer à leurs occupations en toute quiétude. D'Uvira, Fiston Momayaba, la Radio Kapi.
Affrontement à Kabambare dans la province du Maniema. Le bilan dressé par le président de Bangu Bangu vivant à Kindu fait état de 19 villages qui se sont vidés de leurs habitants. David Kizé Awazi appelle les uns et les autres à privilégier la paix. Il le dit à Florence Kizalunga.
Ici, je voulais seulement demander à mes deux frères, les Maï Maï dirigés par Papa Kabala et l'autre camp de M. Mandevou, de cesser les hostilités, de cesser de se battre. Privilégions la paix entre nous. Parce que je sais, nous tous, nous sommes des frères. Nous sommes des frères, nous devons privilégier les dialogues et non pas les affrontements. Parce que c'est notre population qui en pâtisse. Et ces affrontements-là font reculer seulement le développement de notre milieu là-bas. Ça recule même notre province. Quand les gens entendent, il y a de l'insécurité, il y a les gens qui s'affrontent là-bas, les gens ne viendront plus investir là chez nous. Donc ça va freiner le développement même de notre territoire en général de Kabambare et de notre province en général. Et c'est pourquoi je lance aussi un autre appel aux humanitaires de venir en aide à la population actuelle qui est vraiment dans la brousse. Il y a des déplacés aussi. En tout cas, leurs conditions de vie vraiment sont déplorables à ce jour. C'est pourquoi nous demandons de venir en aide pour que nos frères soient vraiment assistés. Actuellement, c'est à peu près 19 villages.
Santé à présent. 70 cas de choléra sans décès ont été enregistrés en l'espace de 3 semaines à Kalemie. Le maire de la ville qui vient de déclarer ce mardi matin cette épidémie appelle ses administrés à observer scrupuleusement les mesures de prévention. Gédéon Kakoudji affirme que la prise en charge se fait actuellement avec l'appui des partenaires comme l'UNICEF et la Croix-Rouge. Il est au micro de Paul Mounanga.
Il est extrêmement important de s'assurer que toute personne ayant des symptômes tels que la diarrhée aqueuse aiguë, les vomissements, les douleurs et ou crampes abdominales, etc., soit directement orientée vers les structures sanitaires appropriées pour une meilleure prise en charge gratuite. Ici, je cite l'hôpital général de référence de Kalemie, où il y a un centre de traitement des maladies diarrhéiques. Afin d'espérer à réduire également le risque de contamination de choléra, je demande à toute la population de prendre des mesures de précaution contre toutes les maladies transmises par la consommation des aliments crus et par l'eau, en vous lavant les mains souvent et convenablement avec du savon ou de la cendre. Évitez de se laver, de faire la lessive et de nettoyer les habits dans le lac Tanganyika et dans la rivière Lukuga. Il y a déjà la Croix-Rouge qui est en train de nous aider à appuyer les sites de chloration, bien que c'est pas suffisant parce que en principe, sur toute la ville, nous avons besoin de 90 sites. Mais aujourd'hui, nous avons déjà 22 sites opérationnels. Il y a l'UNICEF qui a appuyé en quelques entrants et nous continuons à faire les plaidoyers.
Revenons un instant au Sud Kivu pour parler de l'inauguration ce mardi du pont métallique provisoire de Tihanda dans le groupement de Nyangezi. Ces dons de la MONUSCO va faciliter ainsi la reprise du trafic sur la route nationale numéro 5 avant la réhabilitation proprement dite du pont initial qui s'est écroulé voici 4 mois. L'installation de cet ouvrage par l'office de route répond ainsi au plaidoyer du gouvernement provincial afin de faciliter ou de soulager les habitants qui empruntent cette voie de communication. Rachel Kiesembangu revient de Nyangezi. Voici son récit.
L'écroulement du pont Tshihanda en juin dernier a été un grand préjudice pour les populations de cette contrée et les voyageurs. C'est pourquoi la construction du pont provisoire est un grand ouf de soulagement pour tous. C'est ce que dit le chef de groupement de Nyangezi, Tshishugi Nyangezi Pascal.
Nous avons connu des moments très difficiles quand les ponts s'étaient effondrés. Les camions sont restés ici pendant beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement que le gouvernement provincial ait répondu positivement en collaboration avec la MONUSCO. Nous ne pouvons que dire merci pour tous ces efforts.
Il faut dire que les travaux de reconstruction du pont qui s'est écroulé en juin dernier ont débuté ce 1er octobre. Des travaux exécutés par l'Office des routes avec le financement du FONER. Des travaux d'entretien sont également exécutés sur cette route, notamment sur le tronçon Nyantende-Kamagnola. Anissé Kakessa, directeur provincial de l'Office de route Sud Kivu, l'explique.
Le pont provisoire, c'est juste pour faire passer les gens momentanément. Mais obligatoirement, il faut faire un pont définitif. Nous avions lancé les travaux le samedi. La RN5 aussi, nous avons commencé déjà. On a fait d'une pierre deux coups, on a lancé les travaux du pont et de la route.
Notez qu'une fois le pont initial reconstruit, le pont métallique provisoire sera démonté pour répondre à d'autres besoins dans la province. Bukavu, Rachel Kessé pour Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Burkina Faso attise actuellement les appétits de la Russie et spécialement du groupe Wagner. Le capitaine Ibrahim Traoré a ouvertement fait part aujourd'hui de son intention de se rapprocher davantage des nouveaux partenaires en citant notamment la Russie. Evgeny Prigogine, le créateur du groupe Wagner et proche collaborateur du président Vladimir Poutine, s'est exprimé à 2 reprises, le jour même du coup d'État et le lendemain samedi, confirmant ainsi son intérêt pour le Burkina Faso. En Éthiopie, pendant ce temps, le Tigré est soumis actuellement à un blocus humanitaire et les communications sont coupées. Les rares échos qui parviennent de la guerre indiquent que les combats sont d'une extrême violence et que la situation humanitaire est critique, selon le docteur Fassika, chirurgien principal à l'hôpital de Mekele, la capitale tigréenne. Et puis, en Somalie, le dernier bilan de l'attaque terroriste de lundi dernier à Beledweyne fait d'État, de 20 morts et de 36 blessés graves. Les extrémistes islamiques d'Al-Shabaab ont revendiqué l'attaque l'après-midi d'hier en ciblant le siège du gouvernement local de la ville, située à plus ou moins 300 km au nord de la capitale Mogadiscio. Belledonné est au cœur d'une récente mobilisation générale contre les extrémistes, selon des responsables et des témoins.
L'invité.
Notre invité, c'est l'infirmière titulaire du centre de santé de Mangina, territoire de Beni au Nord Kivu. Sœur Florine Kavira affirme que la situation s'est dégradée dans ce centre de santé suite à la grève décrétée par le corps médical. Elle s'entretient avec Marc Marofimo.
La sœur Florine Kavira, bonjour.
Bonjour.
Zéro malade, zéro infirmier sur le centre de santé de Mangina. On peut comprendre c'est quoi le problème?
Oui, zéro malade, zéro personnel aussi de la structure parce que nous sommes à grève. Nous sommes finalement à grève sèche parce que nous réclamons nos droits. Depuis 2 ans, nous ne sommes pas payés, nos prestations de soins ne sont pas payées.
Et qu'est-ce qui est vraiment la base de tout ça?
Nous avions signé un projet, nous sommes en fait dans un projet de PDCS de la Banque mondiale. Alors, c'est depuis septembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais reçu quelque chose.
À l'étape actuelle, qu'est-ce que vous avez fait comme sujet de communication avec les autorités? Qu'est-ce qui a été dit pour les autorités jusqu'à présent?
Aux autorités, nous leur avons adressé des lettres et même nous avons fait des entretiens pour leur demander où est le nœud du problème et pourquoi on ne nous paie pas. Alors, c'est pourquoi après beaucoup de réunions des assemblées du personnel, finalement nous avons jugé mieux faire une grève sèche, arrêter tout le travail et voir qu'est-ce qu'il faut faire.
Et dans tout ça, est-ce que vous avez eu le temps d'évaluer l'état des lieux de malades parce qu'une grève sèche, ça a des impacts négatifs sur la situation sanitaire de la population?
Tout ça, nous avons évalué et ça ne dépend pas de nous. État qui met, nous voyons la personne, l'homme qui souffre vraiment et le délaisser comme ça, c'est vraiment difficile. Mais compte tenu de ce que nous vivons, nous n'avons pas l'argent pour nous procurer le médicament. Le personnel n'est pas payé parce qu'on ne peut pas soigner sans être à bon état, sans manger, sans avoir le nécessaire. C'est pourquoi nous avons décrété finalement une grève sèche. Mais nous nous sommes dit, après cette grève sèche qui a aidé, nous allons faire une évaluation. Après cette évaluation-là, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire encore. Oui, nous sommes en contact avec le personnel et chacun est parti à son coin. Donc hier, on a fait une évaluation et c'est de là qu'on a pris cette décision-là de faire une grève sèche. Alors, même au niveau de la structure, personne qui fréquente la structure.
Mais bien que la grève sèche soit là, est-ce qu'il y a déjà des correspondances, soit des communications pour voir comment décarter ces situations qui sont en cours?
Oui, nous sommes en train de nous adresser à nos autorités. Mais jusque là, nous avons commencé à partir de septembre de cette année. On avait lancé des lettres de préavis, même autres. Finalement, nous sommes arrivés à déclencher une grève sèche. Et jusque là, nous n'avons pas une réponse satisfaisante de la part de nos interlocuteurs.
Alors, à l'étape actuelle, la situation est vraiment grave. Nous avons vécu cela, zéro malade au sein des centres de santé. Quelles sont vos recommandations pour les autorités à tous les niveaux?
Nos recommandations est qu'ils nous aident à avoir une solution le plus tôt possible.
Et vous pensez, la prise en charge des malades cette fois-ci, ça va se passer comment? Parce qu'il y a même des diabétiques dont on a trouvé les matins en train de se lamenter ici à l'extérieur.
La prise à charge, vraiment, on ne sait pas quoi dire. Nous leur avons dit d'aller se faire soigner ailleurs. Mais malheureusement, on ne sait pas s'ils seront pris réellement bien à charge. Pour la population, nous leur disons, bon, de patienter, de subir ça comme ça et qu'ils partent se faire soigner ailleurs, mais qu'ils nous aident aussi à faire les plaidoyers.
La sœur Florine Kavira, merci.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, l'infirmière titulaire du centre de santé de Mangina, territoire de Beni au Nord Kivu. Sœur Florine Kavira Kisonia affirme que la situation s'est dégradée dans ce centre de santé suite à la grève décrétée par le corps médical. Elle a été interviewée à Beni par Marc Marofimo et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Dans 5 secondes, il sera 18h20.